s'adresse aussi notamment à la ville, mais pas uniquement. Ça va être un écran pour montrer ce qui n'est pas montré ailleurs. Et puis chaque effet sort de ce mur. Donc on sent qu'un cinéma en plein été, c'est vraiment pas très fréquenté, quand il fait beau. Et c'est une façon aussi de projeter dans les lieux, de rendre le cinéma accessible avec un pied, de décentraliser, d'être vu par un autre public. Et donc chaque été, on organise ce qu'on appelle le Festival Plein Open Air. Et donc là, on est en plein milieu du Festival Plein Open Air depuis le week-end passé. Le thème de cette année, c'est la sécurité. Et donc on change chaque week-end de lieu. Le week-end passé, on était au cœur du quartier européen, qui pose la question de la présence des institutions européennes à Bruxelles, qui a un énorme poids pour ces quartiers-là, avec des périmètres de sécurité, des dispositifs de surveillance, et par ailleurs toute la symbolique de l'Europe professionnelle. Et ce week-end-ci, on est au croisement, au carrefour de trois communes de Bruxelles, de Sainte-Forêt, Saint-Gilles et Anderlecht. Ce sont trois communes qui ont souvent été stigmatisées par rapport à des quartiers dits ghetto, des quartiers où il y aurait des problèmes de sécurité. Alors bon, on n'a pas pu se mettre en plein milieu non plus de ces quartiers, on se met dans un parc en fait, un parc qui fait un peu la frontière entre les quartiers populaires et les quartiers plus bourgeois. Et donc ce soir, on va projeter des films, notamment La Zona, qui un film mexicain qui aborde la question de gay communities, de ghetto de riches en bordure, de bidonville à Mexico. Et donc, outre les projections, là, ce qui m'a intéressant, dans le cadre du Plein Open Air, ça fait plusieurs années, au Conseil de la Sorte, on organise des balades sur les enjeux traités cette année. Les balades touchent plus aux questions de sécurité et de surveillance. Et donc, forcément, il y a une balade sur la présence de caméras de surveillance, tant dans l'espace public que dans des espaces privés, mais accessibles au public. On abordera aussi la question des dispositifs de sécurité dans les transports publics, puisque c'est tout récent à Bruxelles, c'est seulement depuis quelques mois qu'un paquet se met des portiques de sécurité dans les stations de métro avec une carte à plus obligatoire pour tous les usagers du transport public. Alors qu'avant, on pouvait rentrer, sortir, on était censé payer, mais bon, voilà, il n'y avait pas vraiment un dispositif physique. La balade est organisée par le cinéma Nova, mais le cinéma fait appel à deux associations compétentes pour cette question-là. Il y a d'une part la Ligue des Droits d'Homme, que l'on connaît, et qui a aussi une antenne à Bruxelles, et qui ces derniers temps s'est fort intéressée à tout ce qui est lié aux caméras de surveillance, aux technologies de surveillance. Et d'autre part, une petite ASBL bruxelloise, Association Syndicale Créative, composés d'artistes, mais qui se sont intéressés à toutes ces nouvelles technologies et ce que ça impactait sur leur pratique artistique. À un moment donné, en sont venus aussi à s'intéresser à la question des caméras de surveillance, à les cartographier, à les recenser sur un site internet. Du coup, voilà, ils ont une bonne connaissance de la présence des caméras dans le quartier ici à Saint-Denis.
Donc, on pense à la vidéo pour les arts et médias. Et donc, nous travaillons sur le terrain de. C'est quoi le but de la salle. Donc, on a un point d'axe qui est très important dans notre travail, c'est la révolution libre, le genre, donc la vie sur la trace de son cours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une expression spécifique de son cours de son cours. Mais il y a l'homme qui va se retrouver dans la production de son cours. Et on a fait un jeu de son cours, 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 on a fait d'établir un cadre d'un cadre thermique d'un cadre 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 d'un avoir un Et on va pas beaucoup de
Globalement, la politique de la Chine en matière sécuritaire, elle n'est pas nouvelle, elle date depuis longtemps. Il y a eu des mesures pour renouveler les musiciens, les appels à l'aviation, les transports en commun, l'installation de caméras de surveillance depuis vraiment longtemps. Par rapport à la contestation et à ces virulents, donc on prend l'exemple de. Politique appliquée qui était pour la gratuité de transport en commun, ou l'exemple du groupe de recherche à l'UCL qui a créé le logiciel qui permet de voir les données sur la technologie. La couverture est super agressive, directement attaquée, avec des charges d'implication assez délirantes. C'est plus identifié, c'est plusieurs années de procès, avec des charges d'implication de l'enquêteur, des choses avec des faux, tout ça. Donc on ne va pas rester trop longtemps non plus dans la station, au cas où on regarde vraiment les caméras et les caméras. En termes de dispositifs de caméras, c'est vraiment un quadrillage partout. Il y a toutes les caméras qui sont ici à l'entrée, mais aussi des caméras sur les quais, aussi des caméras qui sont planquées dans les luminaires, comme ça. Donc c'est vraiment relativement invisible. Et dans les trams, il y a presque 10 caméras qui sont mises. Vraiment, tous les 2 mètres, il y a une caméra qui est installée. Notamment de cette politique qui, a priori, n'avait pas pour objectif un objectif sécuritaire, ce n'était pas l'objectif déclaré, a eu lieu aussi l'installation de systèmes mobiles avec les portiques qu'on peut voir ici. Alors, a priori, le discours n'est pas un objectif sécuritaire, l'objectif c'est de lutter contre la fraude et de permettre une gestion des flux. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute cette question de traçabilité à travers la carte mobile. Mais il est évident que l'installation de ce type de portique va avoir un effet également sur les personnes qui vont pouvoir pénétrer. Donc on exclut les sans-abri, on exclut
plupart des personnes qui, il y a des fraudeurs évidemment, mais on est toujours une partie de la population. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas innocents, ils peuvent avoir aussi un impact sécuritaire, alors que bon, il y a aussi des gens qui payent leur ticket, c'est véritablement exclure une partie de la population.
Donc, juste aussi par rapport à la présence de caméra, avant il y avait des plus gros, il y avait des gens qui regardaient les images, et voilà, donc ça fait déjà pas mal d'années que la CIB a supprimé tout le personnel à l'intérieur des stations pour intervenir pour expliquer des raisons, pour aider les gens, pour s'il y a un problème. Et elle va même plus loin, maintenant elle va commencer à enlever les chauffeurs dans les métros. Donc dans quelques années, il y aura plus de chauffeurs, ça des systèmes complètement automatiques qui diront que le métro est blessé.
Concernant la carte mobile, alors, donc, on a constaté, donc, au début, il y a quelques années, lorsque le système a été mis en place, on s'est posé des questions dans ce système, on a donc interrogé la CIB, parce qu'il existait des inquiétudes, notamment en termes de traçabilité. On n'a jamais obtenu une réponse. Une année plus tard, les scientifiques de l'UCL, des chercheurs en psychologie, ont réussi à pirater la carte mobile, et ils se sont rendus compte qu'en fait, sur la carte, il y avait des données à caractère personnel, et également les trois derniers voyages, donc il y a une traçabilité qui est effective, donc on peut voir, lorsque vous êtes contrôlé sur votre carte, on peut voir où vous avez été. Donc il y a véritablement cet aspect de traçabilité qui est présent, et la CIB a déclaré que l'objectif n'était pas celui-là. L'objectif, c'est de gérer les flux. Alors, on pourrait envisager un système anonyme, mais pour une raison inconnue, il n'est apparemment pas possible à Bruxelles, alors que c'est possible à Paris, à Londres et à Tokyo, il n'est pas possible à Bruxelles d'avoir un système anonyme. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Donc ça alimente des craintes de surveillance, ça alimente des craintes de surveillance également par les employeurs. On a vu cette semaine dans la presse que certains employés pensent que leurs employeurs les surveillent à travers la carte mobile, donc ils surveillent si les personnes font bien le trajet domicile, emploi, donc vont bien travailler, parce qu'ils craignent que les employeurs surveillent à travers la carte mobile, les employeurs fournissant la carte mobile à leurs employés pour aller au travail. Donc ça alimente toutes ces craintes et en effet, on essaie de rentrer dans un dialogue avec la CIB, mais un dialogue qui a été impossible, qui a toujours été refusé. Et donc on a, à la Ligue, essayé de lancer une action sur base des textes de ces scientifiques qui ont mis en évidence des failles techniques et juridiques. Et donc, on a préparé un texte dont j'ai un exemplaire ici que je vais vous remettre. Et donc, c'est invitation à tous les usagers d'écrire à la CIB pour demander le respect de toute une série de conditions en termes de protection des données, de conservation des données à caractère personnel, et également de possibilités, laisser la possibilité aux citoyens, aux usagers qui le souhaitent, de voyager anonymement. Cette possibilité n'est plus prévue. Alors, la CIB maintenant dit. Mais on va prévoir cette possibilité en prévoyant un système mobile de cartes de 1 voyage ou 10 voyages, c'est-à-dire un système qui existe actuellement avec les cartes, mais c'est un système qui est beaucoup plus cher, évidemment. Si vous avez un abonnement, que vous prenez le transport en tous les jours au cours de l'année, bien, ça va vous coûter beaucoup moins cher de prendre un abonnement qu'une carte d'un voyage sur la fin de l'année. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de clients qui vont être exclus de ce privilège de l'anonymat. L'anonymat va devenir un privilège de riche, entre guillemets, puisque il sera plus de plus. Alors ça, ce n'est pas un choix libre et conscient. On ne peut pas dire qu'il y a une possibilité de voyager anonymement. Cette possibilité est totalement illusoire. Donc, une des revendications de ce texte est de l'anonymat.
Juste avant, si on donnait la carte mobile, donc la carte mobile, c'est une carte avec une puce RFID et un chip dessus. Qui va être alimenté via un validateur qui va émettre une onde électromagnétique qui va permettre d'interroger soit en lecture, soit en écriture la carte. Pendant super longtemps, aussi bien la CIB que Pascal Smet, qui était à l'époque ministre de la Mobilité, ont toujours nié qu'il n'y ait aucune donnée inscrite là-dessus. Ils disaient que toutes les données étaient inscrites uniquement sur le boîtier, le validateur, mais là-dessus, il n'y avait rien. C'est un groupe de chercheurs à l'UCL, c'est un petit logiciel qui s'appelle Mobile Tractor et qui permet de montrer qu'il y a effectivement les trois derniers trajets qui sont inscrits sur la carte. Dès qu'il y a eu Il y a eu un comité de presse qui a été fait par le groupe de recherche quand ils ont développé ce logiciel-là. Directement, la CIP a fait pression avec menace de plainte, ils ont envoyé des courriers d'avocats très agressifs directement. Ce qui fait que le groupe de recherche à l'ICL a retiré le logiciel du site et a arrêté de travailler dessus. Donc, pour le moment, ce qu'on voit uniquement avec le logiciel dans l'état dans lequel il a été développé, c'est les premiers trajets, le nom de la personne, la date de naissance et toutes les données relatives à la validité de l'abonnement. Qui a été acheté comme une crédit de voyage. Et donc, on ne sait pas encore très bien s'il y a encore plus d'informations dessus, donc il faudrait que ça réussisse sur le développement du logiciel pour y avoir accès. À mon avis, ce qui est quasiment sûr, c'est les heures de validation des problèmes de trajet, parce que ça, il y a des propositions de santé, au niveau des bases de données, la suite de toujours, il n'y a aucun croisement, donc deux bases de données, une base de données avec toutes les données clients, le numéro d'identification de la carte et les données d'identification de la personne, et éventuellement les données relatives à la validité de l'abonnement. Et d'un autre côté, tout le résultat en fait, des hommes de l'utilisateur qui donne chaque fois une correspondance entre le numéro d'abonnement et le trajet qui a été effectué. Enfin, le trajet qui a été effectué, c'est pas ça, c'est le moment où les gens vivent. Ça ne veut pas vraiment dire où les gens vont, mais où est-ce qu'ils sont pris à un moment en transport en commun. Et ça s'accompagne maintenant de l'obligation de valider à chaque trajet. Donc dès qu'on fait une correspondance, on est obligé de valider sa carte mobile. Et donc, la CIP a vraiment toutes les informations de tous les trajets disponibles. Ce qu'ils disent, c'est que plus que jamais les deux bases de données. Donc, dans cette description, dans la gestion de la fraude, je ne sais pas ce que ça veut dire, dans quel cas de l'étudiant, les gens qui disent ça par rapport à la gestion de la fraude. Le deux, c'est tout ce qui est une gestion de clientèle, c'est-à-dire du marketing par rapport et la troisième possibilité, c'est l'enquête judiciaire. Là aussi, c'est qu'est-ce que ça peut conduire comme champ d'application d'enquête judiciaire par rapport à avoir accès aux données de la CIP. Je ne sais pas, est-ce qu'un employeur peut demander à la CIP via une plainte d'avoir accès à ces données-là par rapport à savoir quand une personne est arrivée au travail, de ce qu'il appelle à ses déplacements de travail. Je ne sais pas, il n'y a pas encore d'application concrète de demande d'une enquête de ce type-là, mais potentiellement, en tout cas, la CIP pourrait avoir accès à toutes les informations. Dire d'autres. Dans les motivations de la CIP, c'est de dire un, ça serait comme ça dans tous les pays dont on le fait. C'est des arguments de facilité pour les usagers, mais ça, vous allez voir dans n'importe quel travail aux heures de pointe, des gens qui vont aller valider sur une banque, ça va être un peu de valider. Oui, le truc, c'est donc la CIP dit que pour avoir accès aux informations sur la carte, ils ont mis vraiment longtemps à admettre qu'il y en avait dessus, il fallait à la fois savoir l'information. Mais un logiciel super cher et super sophistiqué. Voilà, il suffit d'un bête lecteur et du logiciel qui a été fait par les gens UCL. On met la carte dedans. On demande à acquérir les données qui sont exposées dessus. Il lit la carte. Et voilà, on voit que les deux derniers trajets qui sont sur la carte, c'est par exemple Saint-Gilles et Porte de Halle. À avoir la carte pour vérifier les trajets. Voilà, je suis parti. Alors ça, c'est un petit appareil qui va lire les données à quelques centimètres, mais on peut très bien imaginer des choses comme ça, qui ont une fréquence d'émission longue, qui est plus longue, et qui permet d'avoir accès aux données beaucoup plus loin. Ça, c'est sans doute un peu plus compliqué, mais il y a sans doute moyen de faire relativement facilement des cartes, de cloner des cartes comme ça pour effectivement pouvoir rentrer sans y avoir droit. Les gens qui ont travaillé sur le logiciel, on a de dire qu'en une semaine de travail, ça se fait à partir du moment où on a accès à un certain type d'information. Thank you.
peut être un endroit qui est un autre, mais ça peut être un endroit où des personnages qui sont là, avec des gens, un premier des
Thank you.
Bourgogne.